Oasis interdite par Ella Maillard. Un voyage loin, très loin du confinement. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission qui n'a pas de nom. C'est bien de s'en soucier après le 10e épisode, mais dans lequel on suit les pérégrinations d'Ella Maillard et de Peter Fleming au cœur de l'Asie. J'espère que vous êtes prêts. Vous êtes sur Campus Grenoble 90.8 et c'est Oasis interdite. Deuxième partie, l'imprévu. Chapitre 1, chez Borodichine. Or, nous ne saurons rien. Rien de plus que ce que nous savions à Pékin il y a 3 mois. Nous faisons au trot le tour d'un marécage plein de taupinières verdies par la première herbe printanière, pour aller vers de yourtes plantées sur le dos d'une vague de terre. La portière de feutre de la plus petite partie s'est soulevée, quelqu'un sort et sans le vouloir, j'ai crié « Borodichine !» Et puis alors là, il y a une suite de caractères dont je n'arriverai pas à vous donner l'entière oralité. Mais ça donne à peu près « Zorda Tsusuyete ». C'est un petit homme à barbe noire et carrée, aux yeux bruns, plein de bonté. Il est vêtu comme les Mongols, mais porte le petit calot tatar sur le sommet de la tête. À côté de lui se tient Wang, son associé chinois, à figure d'écureuil, coiffé d'une casquette d'ouvrier. Étrange silhouette s'il en fut. Les chevaux décelés, puis entravés, sont poussés dans l'herbe nouvelle du marécage. Sous la yourte, grâce à un feu de broussailles, Boro, comme nous devions l'appeler, prépare des aladis, tout en lisant la lettre où Smig parle de son arrestation à Langshou et de nos plans. Le chat tacheté chimie ronronne près de moi. Alors, vous voulez continuer sur le Xinjiang et les Indes, remarque Boro. Mais c'est impossible, interrompt Wang aussitôt. Pas pour eux. Ils ont tous les passeports qu'il faut, réplique Boro. Que ne donnerions-nous pas pour que tu dises vrai, brave homme? De peur de t'effrayer, nous ne te détrompons pas, mais ce que nous voudrions savoir avant tout, c'est comment tu envisages notre situation. Voici ce que nous apprenons. Depuis la rébellion musulmane de Khotan il y a 2 ans, personne, Norin excepté, n'est arrivé au Tadjinar venant de Tcherchen, qui est à 45 jours d'ici, sur la lointaine route des caravanes. Aujourd'hui, on ne sait pas si la guerre civile est terminée et personne n'ose voyager. De plus, 2 marchands chinois se sont fait tuer par des chasseurs dans la montagne alors qu'ils essayaient de se faire payer leurs créances. Chacun s'est retiré sur ses terres et n'ose plus traverser certaines régions de peur de représailles. Et la méfiance règne parmi les Mongols que notre hôte appelle les Kalmouks. Boro, si jamais il ne peut nous trouver de guide, nous aidera lui-même à sortir du Tsedan. Mais il ne nous cache pas que la saison est mauvaise, que les bêtes sont trop maigres et que les pâturages n'offrent encore rien à manger. La piste ordinaire est dépourvue de points d'eau et aboutit à Gas sur la frontière du Xinjiang, où un poste de contrôle risque de nous refouler. Il vaudrait mieux passer par les montagnes désertes du sud, où il y a de l'eau à coup sûr. Là, en 12 jours, on atteindrait un camp de chasseurs turquis à Izik Pakte, Mokshan en mongol. Il semble que ces musulmans n'ont pas encore quitté ce lieu, quoique leur coreligionnaire est déjà évacué après l'attentat dont j'ai parlé, les terres mongoles sur lesquelles ils avaient coutume de vivre. À Izik Pakte, nous trouverions sans doute un guide capable de nous mener à Tchétchène, où Boro, en sa qualité de russe, ne peut aller. En effet, toutes les oasis du sud appartiennent aux Dungan de Ma Zhongying, qui firent la guerre aux Russes venus à l'aide des forces gouvernementales d'Urumqi. Quant à savoir où acheter des chameaux, Il nous en faudra en discuter demain dans les environs, car personne ne nous louerait des bêtes pour une expédition dans des régions où l'on ne va pas. La journée satisfaisante pour nous, au-delà de nos espoirs, malgré ce qu'elle nous apporte d'incertitude, se termine autour d'un canard au riz, tandis que le bon bourreau se désole de nous si mal recevoir et de n'avoir même pas tué de mouton en notre honneur. Par une caravane arrivée il y a quelques jours, il savait que deux amis d'Oros Bailly étaient en route pour Arakchatou. Histoire d'un Caucase. Tout en fumant sa petite pipe chinoise qui ne contient guère que trois bouffées de fumée acre, Boro nous raconte comment il commandait une sotnia de Caucase sous Anemkov. Lorsque son chef abandonna la lutte contre les bolcheviks et décida de demander aux Chinois d'interner ses troupes décimées par le typhus et la faim, Boro fut chargé de préparer leurs installations, car il savait bien le Kirzig, analogue aux Turcs des populations musulmanes de Dzungari. En même temps, il devait récupérer l'argent déposé par Anankov chez le consul tsariste de Djoukoutchak. Dépourvu de passeport, il eut grand-peine à se glisser de l'autre côté de la frontière sans se faire tuer par les patrouilles chinoises et bolchevistes, comme l'avaient été deux Caucases envoyés avant lui. Il fut arrêté par les Chinois, mais avant d'aller en prison, il exigea une explication au Yémen. Il y rencontra notre ami de Sining, Lou Aoupou, et réussit à se faire libérer en ne parlant que de sa mission financière. Puis, il s'en fut à Gouchen, je crois, et là, sans mentionner ses projets d'installation aux Chinois trop intéressés, il entra en pourparlers avec le doyen des Turquies. C'est ce dernier qui acheta, au prix normal, 500 moutons, le riz et la farine nécessaires au ravitaillement de 3 à 4 000 hommes. L'internement eut lieu, et ce n'est quelque temps plus tard qu'Anemkov partit pour Urumqi. Il se retira ensuite à travers la Mongolie, où il fut assassiné grâce à une trahison du général Fang, vendu aux Soviets. Mais Boro n'avait pas suivi son chef. Il s'établit commerçant à Tungwang, ce village où Stein et Pilio explorèrent les fameuses grottes aux 100 000 Bouddhas. C'est là, à 15 jours au nord de Tejinar, que Smig l'y rencontra pour l'emmener au Tsedam, où l'on peut s'installer sans permis de séjour, semble-t-il. Malheureusement, lorsque la révolte musulmane de Khotan éclata et que Smig décida de s'enfuir avec Norin, Boro se trouvait dans les montagnes et c'est Wang qui hérita du livre de comptes que Smig laissait derrière lui. Maintenant, le futé Wang, d'associé est devenu maître, mais comme il ne sait guère se faire aimer des Mongols, les affaires ne sont pas brillantes. Boro est natif d'Amolinsk, en Sibérie, où il a laissé sa femme et ses enfants. Il est extrêmement inquiet, car il n'a plus de lettres d'eux depuis 4 ans. C'est depuis lors que sa pipe est devenue pour lui une compagne inséparable. Ce pauvre homme souffre d'une maladie de cœur, et l'altitude du Tsedam ne lui convenant guère, il aimerait aller à Tsentsin, qui est la métropole pour tous ces hommes de l'Asie centrale. Mais j'atténue ses regrets en lui expliquant combien le commerce chinois décline depuis l'emprise japonaise sur le nord de la Chine, et je lui décris les dizaines de milliers de Russes qui errent sur la côte en quête d'un gagne-pain. Yourte princière. Un messager nous fait savoir qu'en l'absence de son père, le jeune prince de Tejinar est prêt à nous recevoir ce matin. Nous sommes contents de cette invitation, car le prince nous aidera sans doute à trouver des chameaux. Afin de se montrer en bonne compagnie, je suppose, Wang tient à nous servir d'interprète, quoique nous comprenions très mal son russe zézaillé et que sa connaissance du mongol soit inférieure à celle de Boro. Entre-temps, nous gagnons Ajar tout en nous réjouissant du mouton qui va être servi en notre honneur selon les lois de l'hospitalité. Je fais encore la leçon à Peter qui, très paresseux, n'a jamais su racler un os. Or, chez les nomades, l'étiquette exige de n'abandonner un œuf que lorsqu'il est net, car on montre ainsi le cas qu'on fait à ce précieux animal. Femme et enfant nous regardent mettre pied à terre, puis entrer sous la grande yourte où les anciens de la tribu, accroupis sur plusieurs rangs, forment une imposante assemblée. Le jeune prince, impassible, assis face à l'entrée, reçoit d'une lippe dédaigneuse les modestes présents que Peter lui donne gauchement. Un paquet de cigarettes, un couteau de poche et un jeu de cartes. Ce grave sénat se déride un peu en voyant tomber un grand tapis de peluche représentant une dépouille de tigre et qui recouvrait derrière moi une pile de coffres. L'étagère qui supporte les livres saints et les huit coupes d'offrandes est ornée de peintures ainsi qu'une armoire meuble que je vois pour la première fois sous une yourte. Mais mon attention est surtout captée par les Mongols aux barbes blanches qui m'entourent et par une femme aux traits aigus, sans doute d'origine tibétaine, assise comme nous près de la porte. C'est au Tedjinar, sans contredit, que se trouvent les types les plus fins du Tsedam. Nos hôtes doivent appartenir aux 33 nobles, ou Tedji, dont les ascendants administrent la province depuis 1725. Nous avons encore bu que du thé au beurre, et l'inévitable tsamba, posée sur une table basse, hors d'atteinte, ne nous a pas été offerte. Cependant, il est midi. On sait que nous venons de faire 2 heures de cheval, et je crois là voir un signe qu'un plat de résistance va paraître. Mon voisin de gauche a une splendide tête de guerrier sioux au nez busqué, et je l'admire à loisir, tandis que Wang discute en fin chameau avec celui que nous baptisons le Premier ministre. Mais comme on ne veut pas nous céder aucune bête à moins de 70 lanes, poids d'argent qui fait 105 dollars mexicains, nous nous levons pour partir. On ne nous a rien offert. J'en suis fort impressionnée et nous nous demandons s'il faut y voir de l'hostilité envers les étrangers. Nous apprenons que Norin, en août 1933, a fait cadeau de 28 dollars au prince et sans doute trouve-t-on que nous sommes de bien chiches voyageurs. Mais c'est une réputation à laquelle nous tenons beaucoup. Les exploiter. Lee s'en retourne à Nomo et nous prenons congé de ce garçon dévoué en le remerciant de ce qu'il a fait pour nous. Commerçant né, Lee vient de troquer ses paquets de tabac contre des peaux de renard. Puis, il a emprunté à Peter les 20 dollars qui lui manquaient pour acheter encore un chameau. Machinte, son maître, répondra soi-disant de cette dette en la remboursant en septembre à nos amis Urek de Tangar. Avant de nous quitter, Lee nous apprend que le prince a fait interdire à tous les propriétaires de nous vendre des chameaux. Il veut sans doute nous forcer à revenir chez lui. Les anciens ont dû lui faire comprendre l'erreur commise en rompant une rare occasion de nous tirer de beaux dollars. En effet, tous les Mongols ont besoin d'argent pour payer à Sining l'intérêt de l'impôt en retard, et comme ils l'ont rarement, ce renard de Machinte l'avance pour eux au gouverneur qui, comme par hasard, se trouve être son gendre. Ma récupère l'intérêt insulaire de son argent en envoyant ses agents s'emparer des plus beaux moutons des Mongols. Les autres marchands, d'ailleurs, font de même, et les Mongols, après avoir troqué leur laine contre un poids égal de farine, marché où ils se font largement voler, n'ont plus qu'à s'endetter. Il est admis qu'un dollar de marchandise équivaut à un mouton. Mais comme ce dollar ne sera pas versé, l'année suivante, le marchand se remboursera intérêt et capital en prenant 2 moutons pour chaque dollar versé. Exemple typique du système de pénétration cher à la Chine. Cette manière d'agir explique l'assassinat de ces 2 marchands chinois et l'empressement avec lequel la Mongolie extérieure s'est détachée de la Chine lors de la révolution de 1911. Ainsi, jusqu'au fond de l'Asie, où je croyais joindre enfin des hommes pauvres mais libres, je trouve un esclavage économique et un antagonisme national aussi âpre qu'en quelque partie que ce soit du monde d'aujourd'hui. À Pékin, les étudiants se soulèvent contre le Japon. À Xi'an, les troupes gouvernementales de Nankin risquent leur vie contre le communisme. À Kansu, les révoltes des Dungan mettent périodiquement la Chine du Nord-Ouest à feu et à sang. Ici, c'est l'exploitation des Mongols par les Chinois. Passant outre aux ordres de son prince, le Premier ministre vient nous offrir son plus beau chameau. Il affirme que cette bête n'a encore pas travaillé cette année et qu'elle pourrait gagner Kashgar si nous le voulions. Chacun saurait-il déjà quels sont nos plans ? Un Mongol ne marchande jamais, et comme la perle du Tsedam, ainsi que nous l'appellerions ensuite, est bien en chair, nous payons les 70 dollars demandés. Puis Peter, toujours pressé et craignant que nous ne soyons suspects, décide d'acheter sur le champ, pour 150 dollars, les trois meilleurs des 10 chameaux que Yang Duc, le beau métis, propose à notre choix. Ils ne boitent pas, leurs dents sont en bon état, sauf celle du vieux, qu'il faudra peut-être nourrir à la musette. Ils ont déjà traversé le Tsedam cette année, mais Boro dit que leurs pieds n'en seront que plus durs. Notre ami Cosaque s'occupe maintenant de nos préparatifs de départ. Il recherche des bas, achète orge, oignons, sambas, briques de thé, qui valent ici deux fois plus qu'à Tangar, étoffe d'alienbou et farine blanche. Nous avons encore du riz, du sucre et de la confiture, outre les épices courantes. À la place de beurre, nous emporterons la délicieuse graisse d'une queue de mouton conservée dans l'estomac du même animal. Cet approvisionnement est long, car les habitations sont très dispersées. Et Peter, à court de distraction, tout en poussant le soupir d'un exilé privé de son journal favori, se résigne enfin à me demander son histoire d'Angleterre de Macaulay, dont les petits volumes servaient à caler mes paquets d'allumettes. Il vient d'ailleurs de soulever une fois de plus mon admiration en abattant de sa petite carabine, à plus de 450 pas, une antilope qui garnit fort à point mon garde-manger. Nous vivons sous la plus grande des deux yourtes, c'est celle des Smig, et c'est son image qui évoquait à Pékin lorsqu'il parlait de chez eux. Maintenant, c'est nous qui étions là, réalisant nos rêves les plus chers. Mais eux, où étaient-ils ? Dans un grand coffre, il avait laissé ici une quantité de billets émis par les révolutions de Kerensky et de 1905. Ces pauvres épaves voisinaient avec de vieilles bouteilles de médecine qui, selon les étiquettes, venaient de Bombay, de Moscou et de Tientsin et nous auraient fait comprendre à elles seules que nous étions au centre du continent asiatique. Chapitre 2. La piste perdue. Aujourd'hui, 15 mai, nous partons vers l'inconnu, vers le sud. Au centre du Tsedam, nous sommes à 30 ou 40 jours de la ville la plus proche. À l'est, Sining, d'où nous venons, au sud, Lhasa, à l'ouest, Chenchen, où nous voulons aller. Au nord, par-delà les monts Nan Shan, s'étalent les sables du désert. Nous laissons derrière nous les campements de Tejinar et leurs plaines herbeuses, encadrées de dunes jaunes. Devant nous, les montagnes de Kuenlen, dont les ombres si bleues semblent autant de morceaux de ciel. Là, nous attendent les hautes et désherbes régions tibétaines où nous espérons trouver un guide pour nous conduire aux portes de la lointaine Tcherten. Nous ne sommes que trois, aucun Mongol n'ayant voulu nous accompagner pour l'or ni pour l'argent. Trois Européens, dont deux ne savent pas un mot de Mongol et ne connaissent de la région que ce que leur laisse deviner une carte incomplète. À vrai dire, le russe Borodotchin n'est pas tant un Européen qu'un Asiate, nomade dans l'âme et partout chez lui. Mais c'est un homme de 50 ans dont le cœur peine quand il arrime les charges des bêtes. Et nous ne sommes qu'à 2800 mètres. Et nous devons grimper jusqu'à près de 5000 mètres. Sommes-nous imprudents ? Je ne le crois pas, mais je ne peux m'empêcher de penser qu'un danger me permettrait d'utiliser enfin mon énergie dormante. Je me demande toujours quelle sera mon attitude dans une difficulté éventuelle, et d'autre part, si confiant que Peter et moi soyons l'un dans l'autre, je ne puis m'empêcher de me demander aussi quelle sera son attitude à lui. Cette curiosité ajoute un certain piquant à notre départ. La vie est belle, mais il fait trop chaud et nous avançons sans piste dans un désert absolu de terre grise et dure, comme le fond d'un lac asséché. Peter me demande ironiquement si j'ai peur d'avoir froid, car j'ai attaché sur ma selle presque tous mes habits chauds, me méfiant du climat de la Tartarie. Mais rira bien qui rira le dernier. Voici les bras dissipés du Boron Col, dont nous remontons le cours pendant 10 jours. L'eau, épaisse et jaune, a le reflet huileux des couleurs dont j'ai peint tant de fois le pont de nos bateaux. Puis, nous traversons une région à peine réelle, couverte de dunes en forme de croissant, au dos strié comme des peaux de tigre. Et soudain, une bourrasque glaciale d'une violence folle surgit de l'ouest. La terre noire se couvre d'un voile de sable blanc qui avance comme la nappe d'écume d'un lac en furie, et le gravier même se soulève. La montagne rocheuse, qui comme une île nous servait d'amer, a disparu. C'est à mon tour de hurler à Peter. Avez-vous assez chaud ? En bras de chemise, il se débat contre sa veste que le vent l'empêche d'enfiler. Mais les claquements de l'étoffe terrifient Grease, qui s'emballe et disparaît avec son cavalier dans un tourbillon. Ce soir-là, épuisé, à bout de souffle et le visage brûlant, nous dressions la tente contre une falaise au pied des montagnes. Heureusement, une bonne tranche d'antilope ne tarda pas à nous ragaillardir. Le lendemain, transi de froid, je mets le nez dehors. Notre tente est couverte de neige fraîche et saturée des platitudes du Tsedam. Je ne me lasse pas d'admirer les noires et austères parois qui s'élèvent de tous côtés. C'est au milieu de Djiboulé que nous doublons le Kitinkara, la froide montagne noire, enveloppée de brouillard, et toute la journée, nous suivons par haut et par bas le défilé dantesque où roule le jaune Boron Col. Mon cœur bat lorsque, longeant l'abîme, un chameau heurte sa caisse contre un rocher. Au bas du passage le plus escarpé, un hobo témoigne de la crainte pieuse des voyageurs. À son sommet se dresse une curieuse pièce de bois sculptée, me semble-t-il, en forme de fleur. La vallée du Boron Col. Dès le second jour, la vallée devient large et déserte, et la rivière y coule invisible au fond d'un canyon. Nous avançons sur une large terrasse de gravier rosâtre, d'immenses dunes jaunes d'ocre protègent le pied de la montagne noire, dont les doux sommets neigeux scintillent dans le bleu du ciel. Antilope et Koulan semblent les seuls habitants de la région, quoique Boro nous fasse prévoir la rencontre de bergers. L'eau abonde, mais l'herbe sèche est dispersée, et Boro a fort à faire, soir et matin, pour ramener les bêtes au camp. Autre ennui, la perle du Tsedam est décidément vicieuse. Elle s'arrête brusquement et arrache la cheville de bois passée dans son nez sanglant. Elle rue et crache quand on s'occupe d'elle, et je crains de l'approcher. Le poney de Peter, aussi, nous rend soucieux. Malade, il s'arrête souvent, tête basse, sans vie. Et nous ne l'amenons au camp qu'à coups de cravache, Peter allant à pied. Le quatrième jour, alors qu'un peu d'herbe de l'an passé subsiste près de la rivière moins encaissée, nous rattrapons des moutons. Deux splendides bergers mongols, perchés entre les bosses de leurs chameaux, tiennent chacun un agneau dans les bras. Ce soir-là, un Mongol dont la yourte était toute proche de notre camp vient s'asseoir à notre feu. Boro, justement, désirait s'adjoindre un aide pour les bêtes et de plus, il avait besoin d'un chameau qui puisse le ramener quand il nous quitterait. L'homme craint de venir car il faut quelqu'un pour mener paître son troupeau affamé et l'herbe est difficile à trouver pour les moutons en cette saison où rien n'a encore repoussé. Usant de toute sa persuasion, Boro finit par venir à bout de ses hésitations et Akpan, le Mongol, entre à notre service. Sa venue parmi nous permit à Peter d'utiliser à sa guise le plus important moment de la journée. Il put fumer sa première pipe en paix après le déjeuner, cette pipe dont le bois, pour l'étonnement perpétuel des Mongols, ne se consumait pas. Eux ne connaissaient que la pipe de laiton que l'on bourre avec le tabac de son voisin. Peter, tout en se prêtant à cette coutume polie, ne voyait pas sans appréhension baisser sa provision de Grow Hedgeworth. Notre halte a été d'un jour, mais cela n'a pas fortifié Grease, pas plus qu'une ration supplémentaire d'orge. Il doit être affaibli par la première herbe fraîche de l'année qu'il a mangée à Arakshatu. Nous sommes obligés de l'attacher au dernier chameau tandis que son maître, à pied, chasse l'antilope. Quant à Slalom, il est encore vaillant et m'a même déposé à deux reprises, plus rudement que ma tête ne le désirait. Une motte de terre lui avait fait faire un brusque crochet en plein galop alors que je rattrapais nos chameaux qui perdaient un sac, et l'autre fois, il avait rué à la vue d'une oie morte que Peter me tendait pour que j'aie la plume tout en chevauchant. On va être obligé de s'arrêter sur ce chapitre qui n'est pas terminé pour une fois parce que il nous reste peu de temps avant d'écouter Caroline et ses contes qui arrivent tous les jours à 14h30, juste après cette émission Son Nom, dans lequel on lit tous les jours des passages de Oasis interdite d'Ella Maillard dans son voyage de 1935 qui l'amène de Pékin en Chine. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite de passer une très agréable après-midi, une très belle soirée et on se retrouve toujours demain à 14h. Je serai au rendez-vous pour lire le reste de ce chapitre et le chapitre suivant. À très vite. Oasis interdite par Ella Maillard. Un voyage loin, très loin du confinement.